Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du mardi 18 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Plus de 20 présumés rebelles ADF tués en 10 jours dans l'est de la RDC. Paris veut trouver au moins 100 milliards de dollars pour éviter le décrochage économique de l'Afrique. Des milliers de migrants ont envahi l'enclave espagnole de Ceuta. Madrid promet de rétablir l'ordre. Pas de répit à Gaza et en Israël. L'offensive diplomatique s'intensifie pour tenter de faire arrêter les hostilités. Et dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir tué 22 rebelles des forces démocratiques alliées ou ADF. Les forces armées congolaises sont en l'offensive depuis l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Le point avec Nanit Talani.
Du 6 au 15 mai, nous avons neutralisé 22 membres des ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 armes AK-47, a déclaré le lieutenant Anthony Mwalushayi, porte-parole de l'armée dans la région de Beni, dans le Nord Kivu. L'armée affirme avoir également arrêté plus de 60 collaborateurs de ADF, des Congolais et une dizaine d'étrangers, des Ougandais notamment, a indiqué Anthony Mwalushayi. Ces opérations ont été menées lors d'une offensive militaire depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais installés depuis 1995 dans l'est de la RDC. Ces 18 derniers mois, ils ont été accusés du massacre de plus de 1000 civils dans la région de Beni.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé mardi un projet visant à planter 6 milliards d'arbres dans son pays d'ici la fin de l'année, mettant en avant son combat pour l'environnement en cette période de campagne électorale. Il a aussi appelé les Éthiopiens à surmonter leurs différences ethniques, géographiques ou religieuses pour s'unir pendant cette saison de reforestation censée durer jusqu'en octobre. Les autorités de transition au Soudan ont limogé la chef du système judiciaire et accepté la démission du procureur général. Il y a une semaine, des manifestants ont réclamé justice pour les victimes d'un sit-in réprimé dans le sang en 2019. Le procureur démissionnaire a supervisé des enquêtes sur des violations des droits humains commises durant le règne de Omar el-Béchir, ainsi que sur le coup d'État de 1989 qu'il avait porté au pouvoir. La Grande-Bretagne a restitué au Nigeria les 4,8 millions d'euros saisis sur les comptes britanniques de James Ibori, un ancien gouverneur nigérien de l'État du Delta, c'est dans le sud du pays, condamné pour corruption par un tribunal londonien, a annoncé mardi le gouvernement nigérian. Cet argent doit financer des projets d'infrastructure au Nigeria. Une trentaine de dirigeants africains et européens sont réunis depuis hier à Paris avec les grandes organisations économiques internationales pour tenter d'éviter un décrochage financier, économique et social de l'Afrique après la pandémie. Les précisions de John Lindon.
La réunion de Paris, voulue par le président Emmanuel Macron, est consacrée au fardeau de la dette publique, mais aussi au soutien du secteur privé. L'idée de ce sommet sur le financement des économies africaines a germé à l'automne. Le FMI a chiffré à 290 milliards de dollars les besoins des financements de l'Afrique d'ici 2023. L'économie du continent a connu sa première récession l'an passé à cause de la pandémie et devrait rebondir en 2022. Le moratoire adopté il y a 2 ans a permis aux pays africains les plus endettés de souffler, mais les dettes publiques ont explosé cette année et selon la Banque africaine de développement, 39 millions d'Africains pourraient tomber dans l'extrême pauvreté.
Plus de 50 personnes sont portées disparues après le naufrage de leur bateau parti de Libye pour rejoindre clandestinement l'Europe, a indiqué mardi le ministère tunisien de la Défense, faisant état d'une trentaine de survivants. Environ 90 migrants avaient pris la mer dimanche du port libyen de Zouara. L'OIM a déploré lundi que 680 migrants ont été interceptés et ramenés en Libye la nuit dernière. Le Premier ministre espagnol a promis ce mardi de rétablir l'ordre dans l'enclave de Ceuta où plus de 6000 migrants ont afflué depuis hier en provenance du Maroc voisin. Le point avec Claire Moin-Gibourg.
Nous allons rétablir l'ordre dans la ville et à nos frontières le plus rapidement possible, a déclaré Pedro Sanchez. Cet afflux soudain de migrants irréguliers est une grave crise pour l'Espagne et pour l'Europe, a-t-il ajouté. Ceuta et Melilla sont deux enclaves espagnoles et les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne. Bruxelles a exprimé à l'Espagne sa solidarité et a appelé le Maroc à empêcher les départs irréguliers depuis son territoire. Du côté du Maroc, le flux vers l'enclave s'est tari aujourd'hui à la mi-journée. Les forces de l'ordre espagnoles ont déployé des blindés et ont usé du gaz lacrymogène pour dissuader les migrants. Rabat est un allié de Madrid dans la lutte contre l'immigration clandestine. Cette crise migratoire intervient alors que les relations sont au plus bas. L'Espagne a accueilli fin avril Brahim Ghali, chef du Front Polisario, venu se faire soigner du Covid-19, ce qui a déclenché la colère de Rabat.
L'ONU a fait part de sa profonde inquiétude devant le rapatriement forcé au Mozambique de personnes qui s'étaient réfugiées en Tanzanie voisine pour échapper aux violences dans la province de Cabo Delgado. L'OHCR rapporte que des familles ont été refoulées après interrogatoire par les autorités tanzaniennes, même quand elles étaient de nationalité mixte. Selon l'OHCR, quelques 724 000 personnes ont été forcées de fuir des violences depuis qu'elles ont commencé dans cette province en octobre 2017.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a décidé mardi de refermer un point de passage vers l'enclave palestinienne de Gaza par lequel était acheminée de l'aide humanitaire. Les bombardements israéliens se poursuivent alors que les groupes palestiniens continuent de lancer des roquettes en direction d'Israël. N'est-ce pas, Abdelrahman Dia?
Selon les autorités israéliennes, des obus ont été tirés en direction du point de passage de Kerem Shalom, alors contrée des camions transportant de l'aide civile donnée par des organisations humanitaires internationales. Pourtant, l'ONU avait salué un peu plus tôt l'ouverture de ce point de passage, estimant que c'était indispensable après 9 jours de frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'Égypte a décidé d'envoyer de l'aide humanitaire et médicale et 500 millions de dollars pour la reconstruction de ce territoire contrôlé par le Hamas. Le secrétaire d'État américain a réitéré que son gouvernement était engagé dans une diplomatie intensive mais discrète, rejetant les critiques sur l'inaction de Washington. Le président Biden a affiché hier pour la première fois son soutien à un éventuel cessez-le-feu, mais Israël et le Hamas continuent d'échanger bombardements et salves de roquettes sans aucun signe d'accalmie.
L'Égypte a décidé d'envoyer de l'aide humanitaire à Gaza pour soulager l'enclave palestinienne où plus de 200 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes depuis le début d'un nouveau cycle de violence, le 10 mai. La chancelière allemande Angela Merkel et le roi Abdallah II de Jordanie ont réclamé mardi lors d'une conversation téléphonique un cessez-le-feu rapide afin de permettre de nouvelles négociations politiques. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé mardi en Islande à éviter une militarisation de l'Arctique. Notre espoir est que ce type de coopération continue et que l'Arctique reste une zone de coopération pacifique, a affirmé Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov avait proclamé lundi que l'Arctique était la zone d'influence de la Russie, mettant en garde l'Occident contre ses ambitions dans le Grand Nord. Le fils de Rudy Giuliani, ex-avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York, s'est déclaré mardi candidat au poste de gouverneur de l'État de New York, considéré comme un bastion démocrate. « Ensemble, nous ferons revivre New York », a tweeté Andrew Giuliani, 35 ans, qui est républicain et fut assistant à la Maison-Blanche pendant les 4 années de la présidence Trump. Les députés russes ont adopté mardi en première lecture une proposition de loi visant à bannir les membres d'une organisation classée extrémiste d'être élus députés, une mesure considérée comme visant le mouvement de l'opposant Alexei Navalny. 293 députés ont voté en faveur du texte et 45 contre. Au moins 24 personnes ont péri et 96 autres ont resté portées disparues dans l'ouest de l'Inde mardi après le passage du cyclone Tauktae qui a provoqué des suspensions locales de la campagne de vaccination contre le Covid dans ce pays ravagé par l'épidémie. Le cyclone a touché terre lundi à Gujarat avec des rafales atteignant 185 km à l'heure. Il a aussi provoqué l'évacuation de plus de 200 000 personnes. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique de ce soir, nous retrouvons John Lydon pour la Minute Éco.
La Banque mauritanienne pour le commerce international vient de lancer sa banque digitale dénommée Masrvi. Cette banque digitale fournira à ses clients des produits et services bancaires sécurisés, rapides et faciles d'accès. Toute personne disposant d'un téléphone mobile peut ainsi télécharger l'application Masrvi et ouvrir son compte bancaire digital. Au Cameroun, d'après les chiffres publiés par l'Association des sociétés d'assurance, 11 sociétés en activité dans ce secteur ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de plus de 69 milliards de francs CFA en 2020 contre 67 milliards en 2019. La compagnie aérienne nationale tunisienne Tunisair a annoncé mardi avoir repris ses vols vers la Libye, devenant ainsi la première compagnie à desservir ce pays depuis août 2014. Deux avions ont atterri lundi à Tripoli, la capitale, et Benghazi dans l'est libyen. Les lignes desservant la Libye sont parmi les plus rentables pour Tunisair, dont les difficultés financières ont été accentuées par la pandémie.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec nous ce soir. Bonsoir, Yacouba.
Bonsoir à tous. Suite des matchs de poule de la première journée de la Basketball Africa League qui se joue à Kigali au Rwanda, les Camerounais du FAP se mesurent aux Marocains de l'AS Salé, qualifiés d'office pour cette balle, alors que leurs concurrents ont dû passer par les tournois qualificatifs. Un peu plus tôt, dans la première rencontre, les Angolais de Petro de Luanda étaient face aux Bamakois de l'AS Police. Lourde défaite des Maliens, 84-66 face aux Angolais. Hier, dans le groupe C, les Sénégalais de l'AS Douane ont ouvert leur campagne dans cette compétition avec une impressionnante victoire 94-76 contre le groupement sportif des pétroliers d'Algérie, grâce notamment à l'intraitable Mamadou Lamine Diop qui a frôlé le double-double avec ses 18 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. Dans l'autre match du groupe C, le Zamalek d'Égypte a survécu à une attaque furieuse des Mozambiquais du Ferroviário de Maputo au premier quart-temps pour finalement enregistrer sa première victoire 71-55 dans la Kigali Arena. Très belle opération également pour les Tunisiens de l'US Monastir qui se sont autoritairement imposés 113-66 devant GNBC de Madagascar. Cyclisme, deuxième victoire d'étape pour Paul Dumont au Tour international du Bénin. Vainqueur de la première étape disputée hier, le Burkinabé s'est une fois de plus imposé à l'arrivée de cette deuxième étape, courue aujourd'hui entre Tunkuntuna et Djougou sur une distance de 100 km. Il a devancé au sprint l'Ivoirien Abou Sanogo. Paul Dumont conserve ainsi son maillot jaune. Demain, le peloton fera un critérium de 30 tours à Parakou, soit 105 km. Athlétisme, le marathon de New York annulé en 2020 pour cause de pandémie, aura bien lieu cette année le 7 novembre, marquant sa 50e édition, annonce le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. L'événement pourra accueillir quelque 33 000 coureurs, soit 60% des 53 000 participants enregistrés en 2019, a indiqué le gouverneur. Les inscriptions ouvriront formellement le 8 juin, l'annonce du retour du marathon qui se termine à Central Park. Après avoir traversé de célèbres ponts new-yorkais, intervient alors que New York lance en juillet une grande campagne pour relancer le tourisme. Avant la pandémie, le marathon de New York, créé en 1970, attirait chaque année plus de 250 000 touristes pour un impact économique évalué à 415 millions de dollars en 2015. Le propriétaire de Manchester City, le cher Mansour Bin Zayed Al Nahyan, va prendre en charge les frais de voyage des supporters qui se rendront à la finale de la Ligue des Champions le 29 mai à Porto, a annoncé le club. City dispose de 6000 tickets pour sa rencontre face à Chelsea. La finale, qui devait initialement avoir lieu à Istanbul, ne s'y tiendra finalement pas en raison d'une flambée des cas de Covid-19 en Turquie et a été déplacée au Portugal.
Merci Yacouba pour les sports. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, 30 personnes ont été condamnées à mort samedi dans un procès expéditif pour leur participation aux violences entre deux franges de la communauté musulmane que les autorités ont tenté de réconcilier à la fin du Ramadan à Kinshasa, la capitale. Eddy Issango a joint le porte-parole du gouvernement de Kinshasa qui a tenté la médiation, le ministre Charles Mbutambutu.
C'est regrettable ce qui s'est passé. Nous déplorons tout ce qu'il y a eu comme acte incivique. Et pour le verdict, nous pensons que la justice a fait son travail. Nous nous félicitons du fait que les auteurs présumés soient sanctionnés, soient reconnus coupables. Et pour nous, c'est un message lancé à l'endroit de toutes les personnes qui posent des actes inciviques. Je tiens à préciser que jusqu'à preuve du contraire, notre frère, le policier qui était déclaré mort, ne l'est pas. Il est sérieusement blessé. Il est maintenant hospitalisé. On tente de sauver sa vie. Il y a d'autres blessés graves qui sont pris en charge par nos services médicaux.
Les deux franges de la communauté islamique en RDC ont parlé en plus des fidèles qui étaient décédés. Qu'en est-il exactement?
Jusque-là, nous n'avons pas la preuve. Moi, personnellement, je n'ai pas de preuve du décès de ces fidèles. Je m'en tiens au bilan qui a été présenté par nos sources officielles. Parce qu'on a vu ce qui était déclaré mort. On a vu son Excellence Monsieur le Premier ministre, accompagné de son gouvernement et du gouverneur de la ville, aller au chevet des malades, des blessés. S'il y a un musulman qui est décédé, ça ne peut pas nous réjouir. C'est un Congolais. Ça nous attristera, mais pour le moment, nous n'en avons pas encore la preuve.
Ces jeux souffreux ont eu lieu un jour après une tentative de réconciliation par le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais les deux clans qui se battent accusent plutôt le politique d'attiser le feu derrière. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, je n'ai pas de preuve d'une main politique derrière. Hein. C'est que nous savons que c'est un conflit qui date. Et les deux parties avaient pris l'engagement de célébrer ensemble cette grande fête de la communauté musulmane. Et les gouverneurs de la ville, ainsi que tous ceux qui étaient là, étaient très contents, très heureux de contribuer à la réconciliation des deux frères ennemis. Donc, on était vraiment tous rassurés que tout allait bien se passer parce qu'ils en avaient pris l'engagement. Et il s'était même organisé qu'une partie puisse célébrer l'ouverture et l'autre le serment de clôture. Et à la sortie de l'entretien, ils se sont embrassés et sont sortis ensemble en souriant. Donc, nous étions étonnés de constater qu'après, il y a eu ces violences. La même mise des politiques, je ne sais pas le dire, je ne sais pas le confirmer parce que je n'ai pas vu. Mais je suis convaincu qu'avec un peu de volonté, c'est une question de détermination, une question d'amour, ils peuvent faire la paix.
Le conflit entre les deux clans de la communauté musulmane en RDC est au niveau de la justice, mais il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui arbitre les affaires des aspects comme des églises. Qu'en est-il exactement? Parce que les deux camps réclament la légalité.
Il ne peut pas avoir des clans légaux. Donc, si c'est une communauté, il doit avoir bel et bien un chef. La légalité doit bien se trouver dans un clan, mais nous nous remettons entre les mains de la justice et des autorités compétentes. Donc, nous attendons qu'on nous indique clairement la personne qui est habilitée à engager cette communauté. Ils vont se mettre ensemble, certainement, et chacun mettra peut-être de côté son ego au cas où il n'y aurait pas de solution. Mais pourquoi pas aussi faire comme en politique, des fois peut-être trouver une troisième voie et pour essayer de départager les gens. Mais ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui sommes habilités à le faire. Nous avons confiance qu'une solution sera trouvée.
Charles Mbutambutu, porte-parole du gouvernement à Kinshasa.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Une trentaine de dirigeants africains et européens sont réunis depuis hier à Paris avec les grandes organisations économiques internationales pour voir comment éviter un décrochage financier, économique et social de l'Afrique après la pandémie. Que peut-on attendre d'une telle rencontre? Jacques Aristide s'est entretenu avec Jemal Taleb, avocat d'affaires basé à Paris.
Alors, c'est toujours des choses qui me font rire tout doucement. S'il n'y avait pas un drame humain assez important, j'aurais probablement ri un peu plus. Depuis que je suis tout petit, j'entends le problème sempiternel et quasi permanent de la guerre, de la dette des pays d'Afrique. Et donc, étant moi-même africain, ça m'amuse un tout petit peu. Pourquoi ? Il y a de la dette. Il y a de la dette parce que les États s'endettent, parce que les États gèrent mal, parce que les États sont mal gouvernés, parce que les projets auxquels cela est destiné n'est pas fait, parce qu'encore une fois, dans n'importe quel rue de nos pays, les routes ne marchent pas, l'électricité ne marche pas, le gaz ne marche pas, l'Internet ne marche pas, et donc c'est difficile d'entreprendre dans ces conditions-là. Et donc si on veut avoir une économie qui marche, ça doit être une économie qui crée de la valeur. Or, des économies ne créent pas de la valeur. En plus de la non-création de la valeur, est venu un phénomène nouveau, mais enfin, à l'époque, c'était la famine en Éthiopie, c'était la guerre civile au Soudan, la guerre civile à Madagascar. C'est toujours une raison qui provoque cela. Là, aujourd'hui, on a donc la pandémie de ce fameux coronavirus qui a pris tout le monde par surprise. Mais enfin, voyez-vous, ce qui m'attriste, c'est le continent africain, c'est que c'est le continent le moins touché. Regardez le nombre d'habitants, le nombre de décès par habitant est comparé avec les autres. Le continent africain est le moins touché. Deuxièmement, ce qu'on appelle les immunités croisées est sans doute celle qui protège le mieux le continent africain, la jeunesse de la population. Mais en tout état de cause, quand vous regardez le résultat final, la pandémie touche très peu le continent africain. Et pourtant, ce sont les pays qui sont les plus touchés économiquement. Les plus touchés économiquement parce que les choix sont mauvais. Parce que, encore une fois, on s'est précipité de faire des mesures draconiennes et tuer une économie qui n'y est pas. Alors la réponse, évidemment, est toujours la même, la dette.
Alors rapidement, si vous pouvez, l'idée de ce sommet a germé quand le FMI, le Fonds monétaire international, a calculé que l'Afrique risquait de se heurter à un déficit de financement de 290 milliards de dollars d'ici 2023. En quoi cela est un gros danger pour le continent africain et comment régler le problème en deux mots, si vous pouvez ?
C'est un danger parce que le continent africain risque de se trouver en cessation de paiement. Cessation de paiement d'abord de ses engagements internationaux, c'est-à-dire ce qu'ils doivent payer pour servir de la dette actuellement qui est déjà due. Deuxièmement, un assèchement absolu des possibilités de financement sur le continent et donc à terme, l'appauvrissement et la ruine des États. Les solutions, elles sont toutes trouvées, vous savez, n'est pas compliqué. Il y a un besoin d'argent, 250 milliards tout de suite. Il y a un besoin rapide, encore une fois, c'est de créer des fonds spécifiques de lutte contre la pauvreté et puis la suspension des services de la dette actuellement. Ce sont les trois mesures les plus fondamentales. Si ce sommet répond à ces mesures assez rapidement, on y gagnerait. Mais encore une fois, dans la durée, si les États ne revoient pas leur copie, mais tous les 10 ans, on aura un sommet de la même nature qui va déboucher sur peu et qui va avoir des résultats assez faibles.
Jemal Taleb, avocat d'affaires basé à Paris.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les cas de santé mentale ont triplé à cause de la distanciation sociale et de l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie. En réponse, les autorités ont lancé une ligne téléphonique d'assistance gratuite, ouverte 24 heures sur 24, dotée de psychologues et de conseillers qualifiés. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
La hotline psychosociale COVID-19 a été lancée récemment à Abuja. C'est la première ligne gratuite dans le cadre d'un effort conjoint du gouvernement et d'un groupe de conseillers privés pour traiter l'augmentation des cas de santé mentale au Nigeria. Le ministre des Affaires intergouvernementales, Georges Akoumé, lors du lancement du numéro gratuit.
Le virus a fait beaucoup de dégâts dans les sociétés du monde entier au plan économique, social, politique et sanitaire. C'est pourquoi le conseil est devenu un outil important pour contrôler le comportement des personnes qui ont été touchées.
Depuis avril 2020, les psychologues ont constaté une augmentation significative des cas de santé mentale. Ils indiquent que l'incertitude liée à la pandémie a multiplié les cas d'anxiété et de crise de panique. Aïcha Abdoulaye dirige l'équipe de conseillers sur la ligne d'assistance.
So this is a pilot phase, right? We are anticipating that we're going to get a lot of calls.
Il s'agit d'une phase pilote. Nous prévoyons de recevoir beaucoup d'appels et nous envisageons de nous développer. C'est pourquoi nous faisons appel à des organisations partenaires afin de pouvoir répondre aux besoins des appels que nous recevons.
Bien que le nombre de personnes ayant besoin de soutien mental ait triplé, seulement 10% reçoivent de l'aide, selon les experts. Palemo Ava Niajo, 19 ans, souffrait de dépression depuis des années après une opération chirurgicale de ses jambes. Elle dit avoir finalement surmonté ses pensées suicidaires grâce aux échanges avec les conseillers en santé mentale.
J'étais déjà isolée. J'étais isolée parce que tout le monde sortait, allait au travail, à l'école et me laissait seule à la maison. Cela a donné plus de place aux pensées négatives pour se développer et m'affecter mentalement.
Les autorités nigérianes et l'équipe de conseillers en santé mentale disent espérer que ce numéro vert va contribuer à accroître la sensibilisation afin que davantage de personnes puissent recevoir l'aide dont elles ont besoin pour retrouver la joie de vivre.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
La mort de Francis Ducreux a affecté le Mali à travers sa fédération de cyclisme. Francis Ducreux prenait régulièrement une part active dans l'organisation des Tours du Mali. Pour en parler, notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, a échangé avec le président de la fédération malienne de cyclisme, Amadou Togola.
La disparition de Francis Ducreux est un coup dur pour le cyclisme africain, a indiqué Amadou Togola, président de la Fédération malienne de cyclisme.
Je le disais quelques jours avant sa mort que vraiment le jour où Ducreux ne sera pas là, je ne sais pas comment certains pays vont s'y prendre, comment les tours vont s'y prendre.
La dernière implication physique de Francis Ducreux dans l'organisation du Tour du Mali remonte en 2004. Et depuis, c'est à distance qu'il appuyait et conseillait la Fédération malienne de cyclisme dans l'organisation des tours. Selon Amadou Togola, ce rôle à la fois de technicien et de manager a été pleinement joué par Francis Ducreux pour la réussite des tours du Mali.
Quand il y a l'organisation d'un tour, déjà, c'est vraiment un pas parce que tout ce que vous faites dans votre pays comme organisation de courses cyclistes, si c'est pas couronné par le tour, je sais que ça va rester comme dans un vase clos. J'ai connu le tour du Mali à travers Francis Ducreux. Et donc, je peux dire que la relance du tour du Mali, c'est Francis Ducreux. Évidemment, il cherchait des partenaires parce que le tour, c'est un truc très cher.
L'organisation d'un tour dans un pays en crise, comme c'est le cas actuellement au Mali, est un défi.
L'organisation d'un tour, c'est vraiment donner une bonne image au pays. Parce que cette année, la caravane qui a traversé les différentes villes et villages, dans certains pays, on croirait qu'on ne pourrait pas circuler au Mali. Mais nous avons montré la preuve que vraiment, on peut bien circuler au Mali. Et si l'année prochaine, on organisait les tours du Mali pour faire une étape à Mopti, mais les gens vont être ébahis. Ils vont dire que mais comment cela est possible?
Pour le président Amadou Togola, le cyclisme se porte bien au Mali, malgré quelques difficultés.
C'est de pouvoir pérenniser les tours du Mali. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les autres difficultés, vous savez, les matériels de cyclisme coûtent très cher. Aujourd'hui, le cyclisme de dernière génération, nous allons dans les 25 millions de vélos. En 2019, nous avons reçu des vélos et des pièces de rechange d'une valeur de plus de 100 millions avec l'Union Cycliste Internationale. Même si cela n'est pas donné aux Maliens, si nous avons des vélos de 10, 12 millions à travers l'UCI, je pense que c'est très important.
Cette autre difficulté est relative à l'inexistence d'un centre de formation.
L'Union Cycliste Internationale est en train de voir comment faire un centre satellite en Afrique de l'Ouest. Mais pour le moment, c'est un projet, ce n'est pas encore effectif. Mais chaque fois que nous avons besoin de formation, c'est l'UCI, l'Union Cycliste Internationale qui envoie des experts pour nous appuyer. Il n'y a pas de centre proprement dit en Afrique de l'Ouest.
En attendant, Francis Ducreux est parti. Dors en paix. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Lunanila Gahima, Michel Claire-Joseph, Georges Léonard Sagnot et José Morissin. Eric Mandela Kidza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.